À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Philippe Descola. Je suis anthropologue, c'est-à-dire que j'ai fait de ma curiosité pour le monde un métier. Je suis devenu un badaud professionnel, si je puis dire.
Deuxième épisode avec les Atchouars d'Amazonie. Bonsoir Philippe Descola.
Bonsoir.
En fait, je dis Philippe Descola, mais ce soir, je vais m'adresser à Iripi Yakoum, qui est le nom que vous portiez quand vous étiez chez le peuple Atchouar, les gens du palmier d'eau en Amazonie, entre l'Équateur et le Pérou, où vous êtes parti à l'âge de 25 ans faire un travail de terrain avec votre femme, Anne-Christine Taylor. Vous êtes resté là-bas 3 ans à partir de 1976 et c'est une expérience que vous avez racontée dans un livre formidable qui s'intitule « Les lances du crépuscule » paru dans la magnifique collection Terre humaine des éditions Plomb. Bah tiens, pour commencer, comment dit-on bonsoir en Atchouar?
En fait, on dit pas bonsoir, on dit dormez, kanurta.
Comme on dit bonne nuit, nous?
Oui, c'est-à-dire, c'est plutôt une langue qui est fondée, dans laquelle ce genre de choses se dit par injonction, c'est-à-dire lorsque, là où on dirait, nous, bon appétit, on dit mange, iwata, umurta, bois, à ta santé, en fait. Et pour dormir, on se dit kanurta, dors, ça veut dire, implicitement, ça veut dire dors bien, ne sois pas visité par des mauvais esprits dans ton sommeil.
Et c'est très important parce que les rêves
jouent
sont
un rôle fondamental.
Très importants dans cette population. Souvent, le matin, il est question des rêves, on discute les rêves, on commente les rêves.
Tout à fait. C'est la première chose qu'on fait au réveil. On se lève bien avant l'aube et on boit une sorte de thé d'infusion d'une plante qui s'appelle en espagnol la huayusa, qui est le dérivé du nom jivaro, qui est huayus. C'est la même famille que le maté argentin. Et c'est une boisson chaude, donc, qu'on consomme autour des feux, parce qu'il fait un peu frais, il fait encore nuit, et qui a un léger effet émétique si on en boit beaucoup. Et donc, au terme de ces conversations concernant les rêves autour des feux, après, on va se faire vomir en se chatouillant la luette avec une petite plume, parce qu'il faut commencer la journée avec le corps débarrassé de toutes les impuretés, les scories qu'on a accumulées la veille. Et donc c'est quelque chose auquel on a fini par se prêter, s'habituer au fil du temps, mais qui est un peu paradoxal, effectivement. Mais c'est vrai que l'essentiel de la discussion, à ce moment-là, porte sur les rêves de la nuit, parce que les Atchouars ont un système d'oniromancie qui est très développé, c'est-à-dire que ce que l'on conserve des rêves au réveil, ce sont des images, et certaines de ces images doivent être interprétées pour savoir comment l'on va conduire sa journée. Et ces interprétations-là sont assez classiques parce qu'elles sont fondées sur une sorte de clé des songes, une grammaire des rêves. Donc si on rêve que qu'une femme, par exemple, va enfiler des perles de verre sur un fil pour faire un collier, ça veut dire qu'elle va vider les entrailles d'un animal que son mari a tué à la chasse. Donc c'est une inversion dans le mouvement, par exemple. Ou bien, si l'on rêve que l'on va chasser des oiseaux à la sarbacane, c'est un signe favorable, bon augure pour aller à la pêche, etc., etc. Et ce qui, évidemment, jetait un regard tout à fait original sur les rapports que les Atchouars entretenaient avec les plantes et les animaux.
Absolument, ça s'est déjà dit beaucoup de leur façon d'habiter le monde. On est déjà avec eux, là, avec les Atchouars, mais peut-être, Philippe Descola, faut-il les présenter, faire leur portrait? Et même avant cela encore, j'ai envie de vous demander, pourquoi eux? Est-ce qu'il y a une motivation particulière? Vous nous avez dit, l'Amazonie, il y avait des choses, puis il y a un imaginaire collectif de l'Amazonie qui est très particulier. Donc il y a l'imaginaire, peut-être même un double imaginaire de l'Amazonie, on est dans les années 70, et dans cet imaginaire-là, celui propre aux Atchouars qui a orienté votre choix.
Alors, il y a un imaginaire de l'Amazonie, en effet, en tout cas des basses terres de l'Amérique du Sud, puisque dès le début de la conquête, qui s'est fait très sporadiquement au début, d'abord sur le littoral du Brésil, avec des Portugais, des Français, des Hollandais et quelques Anglais, et sur de l'autre côté, à l'ouest, au Piémont, dans le Piémont des Andes, par les Espagnols qui avaient débarqué au Pérou, qui descendaient vers la forêt. Les informations que rapportaient ces voyageurs et ces conquistadors étaient assez paradoxales, puisque surtout dans les textes des lettrés, c'est-à-dire en particulier des Français qui ont publié comme Jean de Léry ou Thevet des récits qui ont, ou Staden, des récits qui ont été immensément populaires et qui ont beaucoup circulé en Europe à l'époque, les auteurs et les observateurs marquaient leur perplexité devant des peuples qui tout à la fois semblaient vivre sans difficulté, un peu comme des insectes qui butinent des plantes, des fruits de la nature, et donc d'être à peine distingués au fond du milieu qu'ils exploitaient, et en même temps qui posaient cette question centrale de savoir quelles étaient leurs institutions, puisqu'on ne retrouvait rien dans les basses terres des institutions qui étaient communes à l'époque en Europe, et en particulier qu'on retrouvait aisément dans ce qu'on appelait les hautes civilisations, en particulier parce qu'elles étaient dans les montagnes, dans les Andes ou au Mexique par exemple. Il n'y avait en effet dans les basses terres ni temples, ni clergés, ni armées, ni institutions étatiques. L'habitat était souvent dispersé. Et au fond, les Espagnols n'ont pas été surpris de ce qu'ils rencontraient dans les Andes et au Mexique, hein, mais tant les Espagnols que les Français ou les Hollandais étaient très surpris, ou les Portugais, de ce qu'ils rencontraient dans les basses terres, puisque précisément, ces gens, selon la formule de l'époque, étaient sans foi, sans loi, sans roi, c'est-à-dire sans religion, sans code social clairement identifiable et sans État. Et donc, il y avait une sorte de contradiction, en tout cas un leitmotiv qui s'est poursuivi juste pendant longtemps, jusqu'au XXe siècle, entre ce qu'on pourrait appeler une légende noire et une légende dorée. La légende noire, c'était ces gens sont des sauvages parce qu'ils se font la guerre, ils se mangent. Évidemment, le cannibalisme avait beaucoup frappé l'attention des observateurs. Ils sont incapables de résister à leurs instincts, ils sont donc complètement naturels, si je puis dire. D'autre part, ils vivent sans travailler dans des sociétés égalitaires où ils discutent de questions philosophiques.
Le philosophe nu.
Le philosophe nu de Montaigne, c'est ça. Et donc ces deux versions se sont poursuivies, et quand dans mon enfance, par exemple, c'était quand même la légende noire qui dominait, c'est-à-dire c'était l'époque de Maufray, de ce jeune homme qui avait disparu en Guyane, à la frontière de la Guyane et du Brésil, pour lequel on avait lancé des expéditions pour le retrouver, c'était donc un enfer vert rempli de peuples hostiles, cannibales, rempli de bêtes dangereuses, etc., etc.
Et vous avez décidé d'aller là?
Non, parce que il y avait quelque chose d'excessif au fond dans ces et puis au fond
surtout d'aller voir en vrai, justement.
Oui, c'est ça. Puis là,
d'aller confronter l'imaginaire à la réalité.
L'appel de l'aventure est toujours
et
là.
Et le goût du risque. Parce qu'en plus, les Atchouars, alors à l'époque, je crois qu'on dit plus maintenant que c'était des Jivaros, parce que c'est mal perçu.
C'est un terme dépréciatif, et donc les peuples Jivaros, c'est-à-dire les différentes tribus de l'ensemble linguistique, parce que c'est une langue isolée, le Jivaro, préfère qu'on les appelle Eins Ticham, c'est-à-dire la langue des personnes.
Et alors justement, eux, en plus, avaient, vous le disiez dans la première émission hier, ils avaient la réputation d'être des chasseurs de têtes, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi connus pour leur propension à réduire les têtes, donc d'être particulièrement brutaux et sanguinaires.
Féroces.
Mais c'est ce qui les avait protégés aussi des Blancs et de
tout
la colonisation, d'une certaine façon. Donc quand vous êtes arrivé là-bas, Philippe Descola, 1976, vous débarquez en cargo dans le port de Guayaquil. Il y a un petit côté romantique. Là, vous êtes en couple, en
bien
plus.
Sûr, oui.
Alors, comment vous arrivez ensuite dans les habitations à Choa?
Alors, au début, c'était pas facile de les trouver parce que, en fait, nous avions choisi d'aller chez les Atchouars parce que, au-delà de ce que je viens de dire sur l'intérêt de l'Amazonie comme une énigme, au fond, puisqu'on ne savait pas très bien où était, ce qu'était la vie sociale parmi ces gens-là, indépendamment de leur rapport à la nature. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant d'étudier le rapport à la nature d'une population amazonienne pour voir comment ils se débrouillent, au fond, avec les non-humains. Comment ils les intègrent à leur vie sociale, et le constat de l'absence d'institutions sociales vient peut-être du fait que précisément ce sont les non-humains qui constituent l'essentiel des rapports sociaux que ces populations d'Amazonie entretiennent avec leur entourage.
Vous vous disiez déjà non-humains? Pour dire
non, je ne disais
animaux.
Pas encore non-humains. Ah bon, non.
Ça me semble relativement récent, ce terme de non-humains.
C'est venu après. Je me disais les êtres de la nature, je les appelais comme ça à l'époque. Et donc il y avait cette curiosité initiale, et il était donc nécessaire d'aller dans séjourner parmi une population qui n'avait pas eu de contact fréquent et intensif avec le monde extérieur, non pas par goût d'une sorte d'originalité ou de pureté originelle, mais parce que pour comprendre la façon dont une population entretenait des liens avec les êtres de la nature, il fallait pouvoir étudier un système qui n'avait pas été bouleversé par l'encadrement néocolonial, c'est-à-dire dans lequel il n'y ait pas de monnaie, il n'y ait pas de salariat, il n'y ait pas que dans lequel les techniques d'usage de la nature n'aient pas été trop
en fait quoi que ce soit avec lequel on pouvait s'identifier ou dans lequel on pouvait se projeter ou ben, similaire.
C'est pas tellement ça. C'était au fond essayer de comprendre un système d'usage de la nature qui n'ait pas été profondément bouleversé, comme c'est le cas dans certaines régions d'Amazonie, par la colonisation et le néocolonialisme contemporain.
Il y avait que les missionnaires, en l'occurrence des Dominicains, hein, qui étaient sur place et qui connaissaient les Atchouars.
Les Dominicains, il y avait une mission dominicaine à la périphérie des Atchouars et une mission salésienne chez les Atchouars du sud. C'est-à-dire, nous étions partis chez les Atchouars du nord les Salésiens avaient commencé les premiers contacts une dizaine d'années auparavant, et il y avait aussi des missionnaires nord-américains évangélistes qui avaient commencé les premiers contacts aussi quelques années à peu près en même temps que les Salésiens, mais à la lisière du peuple, c'est-à-dire ils n'étaient pas entrés profondément dans la région, mais en même temps, ça nous a permis de faire les premiers pas.
D'arriver jusqu'à eux.
C'était...
Ils dormaient pas là-bas, hein. Ils passaient pas la nuit, ils avaient peur.
C'est-à-dire que nous sommes arrivés depuis une petite base militaire guidée par des guides d'une ethnie voisine, et qui nous ont amenés après 2 jours de marche dans un village atchouar où ils avaient l'habitude de faire du troc. Ils nous ont dit, voilà, on revient. Et alors que la nuit commençait à tomber, j'ai dit, ah, pourquoi vous partez maintenant? Elle me dit, on passe jamais la nuit dans un village atchouar. Et donc c'est comme ça qu'a commencé notre immersion, mais qui s'est fort bien déroulée parce que on avait choisi cet endroit précisément parce qu'on savait que des missionnaires évangélistes étaient déjà passés. Et on avait entendu dire qu'un jeune homme savait un peu l'espagnol parce qu'il avait travaillé loin de là pour des compagnies pétrolières. Et donc ça a commencé comme ça, et on a été en fait fort bien accueillis.
Le fait que vous étiez en couple vous a aidé, vous pensez ?
Ça a certainement aidé, bien sûr, parce qu'un homme seul aurait été, et d'ailleurs considéré comme quelque chose de menaçant, c'est comme un séducteur en fait. Et une femme seule est difficile à imaginer aussi, dans la mesure où elle est considérée par les femmes pas tout à fait comme une femme et par les hommes comme une femme. Et donc, le fait d'avoir été là-bas en couple nous a ouvert l'accès, un accès très large aux gens, parce que ma femme était avec les femmes et moi j'étais avec les hommes.
Une répartition
sexuelle. Donc on
sexuelle...
avait une division sexuelle du travail, et à la fois de l'enquête et des activités auxquelles nous participions, ce qui a permis effectivement de rendre les choses beaucoup plus aisées.
Et sauf quand il a fallu pour vous, Philippe Descola, porter un fusil, ce qui n'était pas forcément au départ votre envie, mais il a bien fallu faire ce que faisaient les hommes, c'est-à-dire aller chasser alors à la Sarbacane, mais aussi avec un fusil.
Alors, mon beau-père, le père de ma femme, pour notre mariage, m'avait offert un fusil de chasse, dont j'étais bien embarrassé parce que je ne chassais pas, mais j'avais lu que les... La chasse était quelque chose de fondamental sur les Atchois, on ne savait à peu près rien. C'est pour la raison pour laquelle nous avons choisi d'aller chez eux. Mais on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des informations ethnographiques sur les autres groupes Jivaro ou Einstichem. Et donc j'ai décidé d'amener ce fusil. Et puis je me suis trouvé dans la situation d'avoir à l'utiliser. Donc c'était un peu en accompagnant des hommes à la chasse, qui avaient la grande gentillesse de me prendre avec eux, parce que j'étais maladroit, je butais sur les branches, j'effrayais le gibier, j'étais un très mauvais tireur.
Et donc, ils vous apprenaient ? Ils vous ont transmis leur savoir-faire ?
Ben, c'est-à-dire
ils ricanaient en vous regardant ?
Non, mais le savoir-faire d'un chasseur, je pense que c'est le cas pour tous les chasseurs en général, pour les bons chasseurs, mais tout particulièrement en forêt, c'est que ça ne consiste pas à tirer sur un animal, avec une sarbacane ou avec un fusil, ça consiste à le trouver d'abord. Et donc c'est apprendre les indices qui permettent de savoir qu'un animal est passé par là. Et ces indices, alors je les ai appris, mais je les sais formellement, si je puis dire. Par exemple, une espèce de papillon qui va volter au pied d'un arbre, ça veut dire qu'il y a de l'urine d'un singe qui est passé par là, qui n'a pas eu le temps de sécher, et par conséquent, le singe n'est pas très loin. Bon, c'est des choses comme ça, qui sont des indices, hein, qui sont bien sûr aussi des empreintes. Après, il faut trouver l'animal, et ça, c'est une autre affaire. Donc, en général, je revenais bredouille. Lorsque je suis parti seul, après, parce que je me rendais bien compte que je gênais les chasseurs, je suis parti seul, je revenais bredouille. Il m'est arrivé aussi de me perdre, ce qui est un peu inquiétant, parce que c'est une densité de population extrêmement faible dans cette région du monde. C'est 0,1 habitant kilomètre carré, ça veut dire qu'on peut marcher pendant des jours sans rencontrer âme qui vive en forêt. Et puis il n'y a pas de chemin, ce sont des chemins qu'on fait soi-même d'une certaine façon. Mais ça faisait partie aussi du charme.
Vous aviez du temps, hein.
Oui, j'avais du temps.
Si vous étiez là pour un petit moment.
C'est-à-dire que l'ethnographie, c'est ça, hein. C'est l'ethnographie, ça peut pas se faire à la hâte. On imagine les enquêtes ethnographiques comme quelque chose de très systématique. C'est vrai, il faut tout noter, et on fait des enquêtes sur des aspects particuliers. Moi, j'ai fait des enquêtes, bien sûr, sur ce qui m'intéressait, c'est-à-dire sur la connaissance des plantes et des animaux, sur la façon dont ils sont classés, etc. Il faut pour ça aussi identifier des plantes et des animaux, donc il y a tout un travail très technique que j'ai mené. Il fallait mesurer les jardins pour savoir la productivité du manioc et des choses comme ça. Mais cela dit, l'essentiel de ce qu'on apprend de plus important vient par hasard. Ce sont des circonstances sur lesquelles on n'a pas prise, qui vous mettent face à une situation ou qui vont vous entendre une remarque qui tout d'un coup vous donne à penser. Et ça, évidemment, pour cela, la connaissance de la langue est fondamentale. Et donc, lorsque l'on vit avec les gens, c'est-à-dire lorsqu'on partage leur intimité tout le temps, puisqu'on vivait avec eux, on finit par devenir comme une éponge qui absorbe des informations sans que l'on ait besoin même de poser des questions, puisque il suffit d'écouter ce que les gens disent pour savoir ce qui se passe. Et dans le livre auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, les Lances du Crépuscule, il y a une sorte de leitmotiv qui court tout au long du livre. Au début de notre séjour, on a appris les nouvelles d'un assassinat. C'est un peuple qui était encore assez guerrier à l'époque. Et toute la question était de savoir qui avait tué cette personne. Et comme toujours, il y a un brouillard de rumeurs, de mensonges qui flotte autour de ces affaires, puisque un assassinat va susciter une guerre de vendetta pour venger la personne tuée, mais encore faut-il savoir qui est le coupable. Et le leitmotiv qui court dans ce livre, ce sont les différentes hypothèses que mes hôtes avaient développé quant à savoir qui a été responsable du meurtre. Et finalement, on l'a su, bien sûr, on le sait toujours. Les anthropologues finissent toujours par tout savoir, parce qu'à force d'être là en permanence, encore une fois, ils écoutent tout ce qui se passe, et donc ils sont au courant de beaucoup de choses. Le problème de l'ethnologue, c'est qu'il, quelquefois, il interprète mal certaines choses, mais il sait beaucoup, mais il interprète parfois de façon outrancière, où il va beaucoup trop loin, en somme, dans ses interprétations. Mais c'est pas le défaut de connaissance qui est un problème.
Est-ce que, malgré tout, justement, vous parlez de vendetta, est-ce qu'il y a eu des moments pour vous difficiles, en tous les cas, où pour vous, il a été difficile de rester extérieur, ou vous étiez au milieu d'eux, vous viviez avec eux, mais malgré tout, quand même observateur, une sorte d'observateur participant. Est-ce que, je ne sais pas, il y a des moments dans ces histoires, par exemple, de vendetta, ou des moments à l'égard de d'Anne-Christine, ou de choses auxquelles vous avez assisté, je ne sais pas, de la violence d'hommes envers les femmes, par exemple, ce n'est pas propre aux sociétés à choix, hein, mais quand vous êtes confronté à ça, est-ce que, ou des éléments culturels qui ont été plus durs pour vous d'accepter, parce que vous étiez obligé de vous mélanger avec eux, mais en même temps vous restiez vous-même, c'est-à-dire venant d'un autre pays et d'une autre culture.
Alors, de ma façon plus générale, la guerre, en effet, nous mettait dans une situation un peu compliquée. Il m'est arrivé d'être dans une maison, ce qu'on appelle une maison de guerre, justement, c'est-à-dire, c'est des grandes maisons, les maisons à choix, mais lorsqu'il y a des conflits, on fait des fortifications autour en bois, donc c'est un côté complètement médiéval, de la guerre de Troie, si on peut dire, et avec des portes qu'on fixe avec des étais la nuit pour empêcher les ennemis de pénétrer. Donc oui, c'était un peu inquiétant, mais je savais par ailleurs que il y avait une sorte de gentleman's agreement avec les militaires. Il y avait des petites garnisons à la périphérie du territoire atchouar qui étaient fondées sur le fait que les atchouars pouvaient se faire la guerre entre eux, mais ça devait pas dépasser le cadre. Donc c'était très mal vu des militaires qui tuent des blancs. Donc j'ai bénéficié d'une certaine façon de cette clause implicite, mais ce qui était surtout le plus difficile, je pense, et pour m'accompagner moi, c'était une habitude assez systématique de brutalité vis-à-vis des épouses. Il nous est arrivé souvent d'avoir à soigner des femmes qui avaient été battues par leur mari.
Et ils acceptaient que vous les soigniez?
Et elle venait se faire soigner.
Oui, vous voyez comme missionnaires à ce moment-là, les hommes.
Non, ils nous voyaient comme des missionnaires lorsqu'on revenait vers eux pour leur dire « c'est pas, faut pas faire ça ». Et ils nous disaient « mais tu parles comme un missionnaire ». Ce qui posait toujours un problème parce que il nous arrivait de marquer notre différence vis-à-vis des missionnaires lorsque les Atchouars nous interrogeaient sur le récit biblique. On disait oui, c'est ce que disent les missionnaires. Nous, on pense pas comme ça, etc. Donc ils se rendaient bien compte que on n'était pas des missionnaires nous-mêmes et qu'on avait des vues alternatives. Néanmoins, pour le comportement vis-à-vis des femmes, vous comportez comme des missionnaires. Et donc là, il y a un échec de l'empathie, si je puis dire, qui était absolument récurrent.
Oui. Non pas un butoir de la pensée, comme dirait François Héritier, mais un butoir de l'action, d'une certaine façon, de la réactivité. Cela dit, vous avez été intégré, Philippe Descola, peut-être le jour où les Atchouars ont commencé à vous donner un surnom, le surnom de Saint-Jurleur, qui était peut-être une forme de...
Alors, c'est une question de mimétisme, c'est-à-dire que les Saint-Jurleurs ont une gorge assez développée et couverte de poils roux. Et il se trouve que maintenant j'ai la barbe blanche, mais à l'époque j'avais une barbe rousse. Et donc c'était par mimétisme avec le Saint-Jurleur.
Vous ressembliez au Saint-Jurleur.
Je ressemblais à un Saint-Jurleur et par ailleurs c'était un prénom classique. Enfin c'était un nom classique, pardon, oui, Yacoum.
Comment s'est passé le retour en France? Est-ce que vous avez repris votre
très
vie
mal.
Facilement?
Très, très mal. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, mais lorsqu'on a vécu pendant plusieurs années avec des gens dont on a appris à apprécier les valeurs et le mode de vie, tout ce qu'il y a de scandaleux, d'inique dans notre monde vous apparaît avec une évidence brutale au retour. Et donc même si, du fait de ma formation politique initiale, j'étais assez conscient des travers du capitalisme, de l'exploitation et des formes qu'elle prend, en particulier de la mercantilisation du monde, le fait que tout a une valeur, tout a un prix, tout s'échange. Je venais d'un monde dans lequel les seules formes d'échange qui existaient étaient des formes d'échange qui étaient destinées à renforcer des liens entre des personnes chez les Atchouars. Et donc, ces choses-là que je savais abstraitement parce que j'avais lu Marx et j'avais lu les auteurs critiques du capitalisme, tout d'un coup me sont apparus avec une clarté terrible. Donc ça c'est très c'est l'égalitarisme aussi. Je veux dire les Atchouars, il y a des personnages qu'on appelle les grands hommes qui sont des hommes qui ont du charisme, qui savent parler et qui réunissent autour d'eux des factions, notamment dans les vendettas, mais ils n'ont pas de pouvoir coercitif, ils réussissent à former des factions autour d'eux par leur pouvoir de conviction, par l'admiration qu'on leur porte, mais il n'y a pas d'inégalité de statut. Il y a des différences, bien sûr, notamment entre hommes et femmes. Les femmes sont tournées vers le foyer, et comme c'est souvent le cas, les hommes gèrent la politique extérieure, si je puis dire. Mais ça n'est pas une inégalité qui est de tous les instants renforcée par des pratiques dépréciatives. Au retour ici, ça vous saute au visage. Donc ça a été très difficile, et à vrai dire, je m'en suis toujours pas remis.
On comprend que ça a été une expérience fondatrice qui a complètement bousculé votre pensée, Philippe Descola. Nous verrons demain la façon dont ces 3 ans ont irrigué votre réflexion et nourri votre œuvre à venir. On se retrouve demain donc pour la 3e émission.
À demain.
Bonne soirée. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral. Prise de son, Michael Simon. Réalisation, Rafik Zénine. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.